Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. On retrouve aujourd'hui Bérangère qui est revenue milkshaker avec moi. C'est bien simple, cet épisode est la suite de l'épisode 29 où elle nous raconte ses 2 premiers protocoles de lactation induite et le début de son 3e dans le but d'allaiter ses chouchous qu'elle adopte au Maroc. Je ne vous en dis pas plus, Maria est donc arrivée dans leur vie au printemps 2021 et spoiler, elle est allaitée. Ça a été simple et compliqué à la fois. Je suis enchantée de vous proposer d'écouter la suite de cette histoire qui me touche beaucoup. On en profite aussi dans cet épisode pour parler des différences culturelles autour de l'allaitement entre France et Maroc, ce que disent les textes religieux et ce que cela implique. C'est passionnant. Vous êtes prêts pour les étoiles dans les yeux ? Go ! Je vous souhaite une très belle écoute.
Salut Bérangère ! Re-bienvenue dans Milkshaker.
Eh ouais, ça y est, je suis de retour.
Bérangère, on t'a déjà entendu donc dans Milkshaker, je le répéterai dans l'introduction, parce que tu es donc la maman de Milkshaker qui a déjà mis en place 2 lactations induites pour adopter ses 2 premiers enfants. Bon, déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis surexcitée à l'idée de faire cet épisode. En fait, je l'attends depuis... ça va bientôt faire 1 an qu'on a tourné le premier épisode, oui, finalement. Ça. Et donc, tu étais en passe de savoir quand est-ce que tu allais aller chercher ton 3e enfant que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas encore qui ce serait, etc.
C'était le grand suspense. Est-ce que cette lactation serait menée à bien ? Est-ce que j'allais m'arrêter avant ? Est-ce que... Enfin, voilà.
Ouais, parce que le Covid avait mis un peu de désordre dans tout ça, tu vas nous raconter, mais les démarches ont été... Déjà que adopter, c'est pas facile, mais alors adopter en temps de Covid, c'est encore une autre affaire. Bon, enfin, tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire déjà un petit update pour ceux qui écouteraient que cet épisode-là et qui n'écouteraient pas le précédent, de qui tu es, combien tu as d'enfants, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis voilà, nous dire qu'est-ce qui fait que tu es une milkshakeuse de qualité, quoi.
Ah bah, je sais pas de qualité, mais peut-être qui sort un petit peu des clous. Mais c'est vrai que, alors du coup, moi je m'appelle Bérangère, je suis la maman de 3 enfants, tous les 3 adoptés au Maroc. Et ça fait donc mon premier à 8 ans et demi. Et je m'intéresse à l'allaitement du coup depuis une dizaine d'années. Cette idée un peu folle il y a 10 ans qui est en train de se démocratiser, qui est d'allaiter un bébé qu'on n'a pas porté. Mm-hmm. Et voilà, donc le combat a été un peu long. On a grandi un peu plus chaque année, on a pris un peu plus d'infos à chaque fois, et jusqu'à arriver à un résultat merveilleux.
Ouais, tu vas nous raconter ça. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler comment l'histoire a commencé assez brièvement, les grosses difficultés que tu as rencontrées et comment se sont passés tes 2 premiers allaitements ?
Alors, du coup, moi, je suis tombée entre guillemets un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je me suis demandé c'était possible d'aller faire un bébé à l'adopter, en sachant que, vu qu'on passe par le Maroc, on sait qu'on a la possibilité d'avoir des petits bébés. Effectivement, si on avait adopté à l'international, peut-être que je ne me serais pas posé la question, parce que les enfants, généralement, plus d'un an, etc. Donc, voilà. Et c'est vrai que, traditionnellement, dans la culture marocaine, c'est déjà quelque chose qui se fait beaucoup, d'allaiter le bébé de quelqu'un d'autre. Enfin, c'est tout à fait dans la famille et tout, il n'y a aucun problème, les voisines. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être que ça ne serait pas si dingue que ça. J'ai réussi à trouver quelques feuillets du docteur Newman sur le site de la Veggie League. Et petit à petit, voilà, j'ai pris des infos et je me suis dit que peut-être ça valait le coup au moins d'essayer. Même s'il n'y avait pas de résultat, j'aurais tenté, quoi. Et puis, ça me permettait aussi de faire quelque chose pour mon futur bébé dont je ne savais rien, dans un moment où on est là à attendre, où finalement notre destin est entre les mains de personnes qui vont juger un dossier et nous dire si on est apte ou pas. Donc c'était aussi un moyen de l'attendre en étant active. Et du coup, j'ai lancé ce premier protocole. À l'époque, on était sur Nantes, donc j'ai trouvé une super pédiatre au Lactarium qui m'a confirmé que ça se tentait et que voilà, pourquoi pas. Donc on a lancé ce premier protocole. J'ai assez rapidement eu du lait, donc là c'était complètement dingue d'ailleurs, parce que j'étais pas censée en avoir encore, j'avais pas encore commencé à tirer, et je crois que voilà, enfin tout le monde a été au courant. Voilà, ouais, je la minute bien. Même. Voilà, j'ai fait mon petit protocole tranquille et on est parti rencontrer donc notre premier garçon qui avait 6 mois et demi et 2 dents. Voilà, chose à laquelle je n'avais pas pensé du tout. Donc je savais que bah, pour moi la première étape c'était déjà d'avoir du lait et c'était déjà assez dingue. Et du coup la mise au sein était on a essayé 2-3 fois mais c'était catastrophique en fait. Parce qu'il savait pas du tout téter. Enfin, pour lui, un biberon, c'était la seule chose qu'il nourrissait. Il comprenait pas ce qu'on lui demandait, en fait. Voilà, ce bébé, il a été tiralaité très partiellement parce qu'il mangeait énormément, mais il avait en gros un biberon tous les jours ou un biberon tous les 2 jours de mon lait, qui était déjà génial pour nous. Ça a duré à peu près 1 mois. En fait, le mois où il est resté à l'orphelinat, nous, tous les jours, on venait le voir et son goûter, c'était son bib de lait maternel, quoi. Donc ça, c'était chouette. Et après, quand il est sorti, bon ben voilà, la réalité de la parentalité qui nous saute dessus. Mais comment peut-on libérer du temps pour tirer son lait? Voilà, ça n'a pas été possible pour moi. Donc voilà, ça, c'était la première expérience. Du coup, quand on s'est dit qu'on allait adopter un deuxième enfant, au final, on ne s'est même pas posé la question. Je ne me suis même pas posé la question. Est-ce que je tente? Est-ce que je ne tente pas? Enfin, pour moi, ça faisait partie du processus, en fait. J'ai lancé un deuxième protocole en me disant que j'allais le faire un petit peu plus long, un peu plus sérieusement, etc. Chose que j'ai fait. Ça s'est très bien passé. Et du coup, au bout, je crois, 2 mois de tirage, etc., je tirais quasiment 500 millilitres par mois, par jour.
Ouais, donc là, on avait augmenté.
Voilà, on avait augmenté d'un cran. Et pour le coup, donc on ne savait rien avant de rencontrer l'enfant. Et quand on l'a rencontré, on ne savait même pas qu'on allait le rencontrer, en fait. Nous, on est rentrés dans l'orphelinat en disant, on veut juste voir les dossiers, et ils nous l'ont mis dans les bras. Et en fait, c'était un tout petit, qui avait 12 jours. Donc, je crois que c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, à me dire, mais génial! Parce qu'il ne va pas encore avoir l'habitude du biberon, etc. Sauf qu'on a eu un deuxième, enfin, un souci différent, chaque enfant est différent. Et c'est qu'il n'avait quasiment pas de réflexe de succion, parce qu'il était, il était en très mauvaise santé. Et du coup, il était préma, en septicémie, en anémie.
La priorité était vraiment à sauver ce bébé.
Il a pris le sein quelques fois, mais c'était plus, c'était plus des tétés câlins où il s'endormait quasiment instantanément. Donc c'était pas nutritif. Après, avec les connaissances que j'ai acquises plus tard, je pense que j'aurais pu réussir à l'allaiter directement au sein. Mais on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut sur le moment.
Donc deuxième bébé tire à l'été aussi.
Mais cette fois, tire à l'été en exclusif pendant 3 mois. Donc il n'avait rien d'autre. Voilà. Du jour où on l'a rencontré, 2 jours après je crois, on lui ramenait sa glacière avec ses 24 heures de lait dedans jusqu'au lendemain. Donc
ouais. Et puis là, 12 jours, du coup, ils ont des quantités qui sont raisonnables.
Surtout que lui, petit poids et tout, donc il prenait un bib de 50 millilitres, quoi. Et encore, quand il arrivait à le finir. Donc, c'était plutôt cool. Voilà, donc 3 mois et qui ont pris fin au final au retour à la maison. Parce que 2 enfants, parce que le quotidien, parce que...
Oui, et puis le quotidien du tir-allaitement, quoi. Enfin, il y a un épisode, je ne sais pas s'il va sortir avant ou après celui-ci, mais on fait un épisode expert sur le tir-allaitement. Voilà, c'est le double du temps, quoi. En termes de timing, le tir-allaitement, c'est quand même très, très engageant. Donc, tir-allaiter, donner à manger, laver,
c'est
la
ça,
vaisselle.
Non, puis, le rythme d'un nouveau-né, c'est quand même assez soutenu. Et là, au final, c'est un peu comme si tu avais 2 nouveau-nés parce que tu dois tirer toutes les 3 heures et que lui a faim toutes les 3 heures, mais c'est pas le même moment, forcément. Donc voilà, et en plus moi j'avais mon premier qui a très mal vécu l'arrivée du petit frère, et donc voilà, s'il fallait en plus que toutes les 3 heures je sorte le tire-lait et que je lui dise bah mon chéri là ton frère dort mais je ne m'occuperai pas de toi tout de suite, voilà, il avait à peine 3 ans, c'était un peu compliqué, quoi. Donc voilà, ça a été une bonne expérience avec un bon résultat, et du coup quand 4 ans plus tard on s'est relancé dans les démarches, encore une fois, il n'y avait pas de questions à se poser. Juste là, je me suis dit, écoute,
salut, Joujoute. Elle est en face de moi, si elle est tellement belle.
Sauf que là, je me suis dit, écoute, j'ai toutes les infos qu'il faut. Donc, je ne sais pas quel sera ce bébé, mais il ne va pas avoir le choix, en fait.
Celui-là, voilà, mangera.
Celui-là,
non,
rien d'autre. Et voilà. Non,
mais après. Oui, quand on a enregistré l'épisode, tu étais finalement en voie d'adoption, tu étais en train de faire des allers-retours, avec le Covid ça arrangeait pas le problème et tout, et on s'était un peu quitté là-dessus en se disant, voilà, quel sera ce troisième allaitement, quel âge va avoir ce bébé, quelles problématiques tu vas éventuellement rencontrer, et donc du coup, est-ce que ça va être possible, pas possible, mais c'était, voilà, tu avais envie de connaître l'allaitement un peu dans son entièreté avec
voilà,
la mise
au sein. La question, voilà, la pandémie a rajouté un gros souci, qui est qu'un protocole complet prend entre 6 et 9 mois, et que moi, donc avant de pouvoir partir une première fois, ça faisait déjà 14 mois, on est parti une première fois en septembre, ça s'est pas bien passé, bref, on est resté bloqué, et au final, on n'a pas rencontré d'enfant, et du coup, quand je suis rentrée en France, j'ai dit, c'est bon, j'arrête tout, parce que c'est lourd pour la santé, c'est lourd pour le moral, c'est bon, j'arrête. Et j'ai arrêté au final pendant 27 jours avant de me dire, c'est pas possible, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Et en plus, on sait qu'on peut avoir un appel à n'importe quel moment. Je vais pas avoir fait tout ça et le jour où on m'appelle, me dire, j'ai arrêté il y a 2 jours, quoi, parce qu'on pouvait nous appeler à n'importe quel moment. Donc j'ai repris et on a eu, j'ai repris 1 mois, 2 mois. Et au bout du 3e mois, que ce soit moi ou mon mari, on a commencé à se dire, on ne va pas continuer indéfiniment. Il y a quand même un traitement, il y a quand même des tirages de nuit. Enfin, on ne sait pas, on peut être appelé dans 1 an. Donc, voilà.
Ouais.
Et je m'étais dit, moi, je vais jusqu'en avril. Et après, il faut que je me rende à l'évidence. J'avais quand même 20 litres de lait au congèle. On n'était pas non plus sur du « j'ai fait tout ça pour rien ». J'aurais pas non plus pris ça pour un échec. Mais à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on nous donne. Et, voilà. Et au final, le 20 mars, on a la directrice d'un orphelinat qui nous demande un papier supplémentaire. Donc, le 20 mars 2021, on a ce message nous disant est-ce que vous pouvez me fournir tel papier ? Ok, donc on le fournit bien sûr dans la foulée, je crois que dans les 10 minutes, c'était déjà parti, par mail. Et en fait, elle nous a renvoyé un message, il était super tard en plus. Enfin, il devait être 21h, donc elle était même plus dans les locaux, en nous disant, j'ai une petite fille à vous proposer. Elle s'appelle Maria, je vous envoie une photo. Et alors, du coup, enfin, on ne s'y attendait pas du tout. Mais vraiment, voilà. Ouais. Et au final, on est parti, il a dit, on prend une semaine, on a le temps de s'organiser un minimum avec l'école des enfants, avec le travail, etc. Et on l'a rencontré le 29 mars. Donc, 9 jours après, on était avec elle.
Ouais.
Et là, c'était... Enfin, quand on a vu la photo, en fait, voilà, moi, je m'étais mis une limite, entre guillemets, de 3 mois. en me disant, voilà, je sais qu'un enfant qui aura plus que 3 mois, ça risque d'être un peu compliqué pour la mise au sein. Donc, moins de 3 mois, ça serait bien. Et elle avait 2 mois et demi.
Ok.
Et le premier truc, ça m'a fait rire, c'est que ça a été la réaction de mon mari aussi quand on a vu la première photo où elle souriait. Oui, mais enfin, en fait, moi, il m'a envoyé les photos, il m'a pas prévenu. C'est lui qui a reçu les photos et il me les a envoyées direct, sans message, sans rien. Et on était dans 2 pièces différentes de la maison et il me crie « Elle a pas de dents !» Voilà. Donc, c'était assez chouette. Et c'est comme ça que du coup, les quelques jours qui ont suivi, moi, j'ai repris la stimulation à fond en me disant « Maintenant, c'est entre mes mains, quoi. C'est entre mes mains, on a la date, on a l'âge. Enfin... faut y aller, quoi. »
Ah bah ouais, là, c'était tout de suite maintenant. Donc, vous êtes partie la voir
voilà,
juste après.
Voilà, on est partie le 29. Et donc, la rencontre s'est très, très bien passée. Et donc, ils nous l'ont présenté. Bien sûr, je l'ai pris dans mes bras. Et ça, je l'avais partagé d'ailleurs sur Insta. C'est qu'en fait, tout de suite, elle a cherché à téter. À travers les vêtements.
Ah bah oui, bah
après, voilà, c'était une grosse journée, donc j'avais pas tiré depuis un moment. Je pense qu'elle a senti aussi le lait, mais sur le coup je me suis dit mais non, mais enfin bon. Et j'en ai parlé donc avec la responsable de l'orphelinat qui était là et qui m'a dit ok, par contre je vous interdis de l'allaiter ou même de ramener votre lait pour elle tant que vous n'êtes pas sortie de l'orphelinat. Sur le coup ça m'a un peu chagrinée, et bah, après, voilà, en réfléchissant, c'est des personnes qui connaissent pas mon hygiène de vie, qui savent pas, enfin, voilà, qui ont besoin aussi de savoir exactement combien l'enfant boit, quand, chose que je comprends. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a aucun souci, moi, ça m'embête, mais d'un côté, ça va être aussi moins compliqué pour elle, voilà, si on vient passer 2 heures avec elle, qu'elle peut téter, et qu'après, il faut qu'elle attende son biberon, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, j'étais partie dans cette optique-là, d'attendre donc qu'elle sorte de l'orphelinat, sans avoir de date. Ça aurait pu prendre une semaine, un mois.
Ouais, voilà, parce que rappelle-nous, est-ce qu'il y a une sorte de protocole de temps où tu restes dans l'orphelinat de toute façon?
Alors, en fait, au Maroc, contrairement en France, on fait un agrément qui est général, c'est-à-dire qu'on voit des enquêteurs, assistantes sociales, etc., qui vont venir nous dire « Ok, vous êtes apte à adopter un enfant ». On a l'agrément, on a le sésame. Et ensuite, on va être apparenté à un enfant, quel que soit le pays ou la démarche qu'on va faire. Au Maroc, c'est l'inverse. Au Maroc, on va rencontrer un enfant. On va faire la demande. Voilà, je veux adopter 7 enfants. C'est-à-dire qu'on commence par rencontrer D'accord. l'enfant et ensuite, on va faire toutes les enquêtes. Donc, d'une ville à l'autre, d'un juge à l'autre, d'une administration à l'autre, ça peut passer de 3 semaines à 6 mois, quoi. Moi, j'ai des parents là dans d'autres villes qui ont mis plus de 6 mois à pouvoir rentrer chez eux avec leur bébé. Donc c'est vrai que c'est toujours le gros stress. et là, voilà, en parlant d'allaitement, le gros stress aussi de se dire, ok, elle a que 2 mois et demi, mais je ne sais pas jusque quand elle va rester là. Je ne sais pas si dans un mois elle aura toujours envie de téter. Je ne sais pas. Voilà, chaque bib en plus peut nous éloigner au final. Mais bon, j'étais prête à respecter les règles et parce que je comprends aussi leur point de vue. Sauf que c'était le 29, donc on a commencé les démarches, etc. Et on a eu la chance d'avoir du monde qui nous aide et de connaître les démarches. Donc voilà, il y a une paire de fois où nous on est arrivé clairement en disant voilà, on veut faire ce papier et on sait que vous pouvez sortir maintenant. Ne nous dites pas revenez dans une semaine parce que vous avez autre chose à faire en fait. Voilà, il y a un bébé derrière, c'est pas en train de vous parler d'une voiture qui a été vandalisée ou je ne sais quoi. Voilà. Et donc, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et le 2 avril, on avait déjà fini les enquêtes. Donc,
D'accord.
Ouais, on a vraiment couru partout. On a mobilisé toute la famille. Enfin, on s'est tapé des kilomètres. Les enfants, ils ont vécu dans la voiture parce qu'on avait notre voiture sur place. C'était vraiment... on a tout donné. Et donc, on avait les enquêtes, on savait que c'était positif, mais il fallait encore attendre que le juge ait une place pour nous faire le jugement. Et donc, ce jour-là, après toute une journée passée dans les administrations, on a pu aller la voir qu'à 19h. Enfin, 18h. 18h. Okay. Donc, on ne l'avait pas vue de la journée. Donc, on arrive, on passe un peu de temps avec elle, et là, je vois qu'elle a faim. Mais genre, vraiment faim, quoi. Elle se mangeait les poings, elle pleurait. Enfin, Et je savais que dans l'après-midi, il y avait un biberon à 17h. Donc, je me suis dit, bah, le prochain doit être à 19-20h, quoi. Pas 20h. Et donc, il était 18h40 quand vraiment, on n'arrivait plus à la calmer. Elle avait vraiment faim. Et je vais voir une nurse et je lui dis, est-ce que c'est possible d'avancer un petit peu de 20-30 minutes le biberon, quoi. Parce que là, elle est inconsolable et on voit qu'elle a vraiment faim. Et elle me répond, ah non, mais le prochain biberon pour les petits, c'est 21h.
Ah oui, donc encore plus tard que ce que
donc,
tu
penses. Donc, ok, elle n'a pas mangé depuis 17h. Il faut qu'elle attende 21h. Là, c'est pas possible. Et en plus, on était censé repartir. Donc là, en fait, en gros, on nous demandait... Oui, on nous demandait de prendre notre enfant qui avait faim, qui était en train de hurler, et d'aller le poser dans une pièce où personne ne viendrait la voir avant 20h30, 21h. Enfin, impossible, quoi. Et donc, on dit à la nurse, mais c'est pas possible, vous pouvez pas les laisser comme ça. Elle nous dit, non, mais je peux pas la poser en sachant qu'elle va pleurer encore 2h, 2h30. Elle me dit, non, mais de toute façon, elle va être trop fatiguée, elle va s'endormir. Donc, ok, c'est l'option qu'on me propose, de la laisser pleurer jusqu'à ce qu'elle s'endorme d'épuisement et qu'elle se réveille en pleurant en attendant son biberon, quoi. Et là, à ce moment-là, on s'est regardé avec mon mari et c'était sûr que ça allait finir comme ça. En fait, le fait est qu'à cette heure-là, donc vers 19h, les nurses, donc elles étaient que deux, les deux nurses donnaient à manger aux plus grands, donc qui étaient à table. Et donc, nous, pour cause de Covid, on pouvait rencontrer nos enfants qu'à l'extérieur. Il y avait une petite terrasse, donc on n'avait pas le droit de rentrer dans les locaux, sauf pour le récupérer et le déposer. Et donc, mon mari est parti dans l'orphelinat en disant aux nurses, je vais vous aider. Donc, comme ça, il a aidé un peu à donner les repas. Et il a surtout détourné leur attention pour que moi, je m'éclipse de la terrasse et que j'aille rejoindre mes deux grands qui étaient dans la voiture en train de jouer. Et que je me planque derrière mes vitres teintées pour cette première tétée totalement sauvage et interdite. Encore une fois, ouais. Voilà, en me disant, je sais pas comment ça va se passer. J'avais déjà testé.
Oui, mais
voilà, j'avais déjà testé. Elle avait déjà tété mon doigt et tout, donc je me suis dit, voilà, c'est un peu une céréale têteuse. D'ailleurs, elle avait des cloques en fait tout en haut de la lèvre parce qu'elle se tétait la lèvre. Donc je me suis dit, ça va le faire, mais en me disant au moins juste pour le contact. Et même si elle boit pas vraiment, voilà, ça va la calmer, ça va la rassurer. Et au final, mais elle a tété comme si elle avait toujours tété. C'était complètement dingue. C'était, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai eu la...
Donc, genre, tu lui proposes le sein, boum, ah ouais. Elle se clipse.
Bon, après, voilà, la position n'était pas idéale. Elle n'avait pas les lèvres bien retroussées et tout. Mais elle tétait, elle a dégluté.
Là, on s'en fout.
Enfin, et en 4 minutes, elle s'endormit, quoi. Elle a tété, elle s'endormit. Et quand je l'ai reposée après, elle dormait. Et la nurse me dit, vous voyez, c'est calmé. Ouais, ok, et voilà. Et donc, c'était notre première tétée. Et d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo il n'y a pas longtemps où on entend donc mon plus petit qui dit, enfin mon grand qui dit, mais tu fais quoi, maman?
Et
le plus petit, ben, elle donne à boire à son tétée, c'est pour ça qu'elle est cachée dans la voiture. Parce qu'ils avaient entendu qu'on n'avait pas le droit.
Ouais, que c'était.
Donc voilà, mais clairement, j'aurais pas pu la poser. Mais c'est vrai que la contrepartie entre guillemets, c'est que à partir de ce jour-là, ça a été encore plus dur de la laisser en fait, parce que voilà, tous les soirs fallait la laisser. Après, ça a pas duré longtemps parce qu'au final, on a vraiment été vite, donc ça a duré une petite semaine parce qu'on l'a, enfin même pas, on l'a récupéré le 7 avril.
Ah ouais, non mais là vous avez fait ça.
Ah oui, on a tout le monde, enfin personne n'y croyait, hein. Mais oui, on parle de toi. Mais c'est vrai que c'était encore plus dur de la poser, quoi.
J'imagine. Comment tu faisais du coup tous les jours? Du coup, finalement tu lui donnais à manger au sein ou
Mais je lui ai redonné après jusqu'à ce qu'elle sorte. Je lui ai redonné, je crois, deux fois parce que d'un côté, je savais que ça serait. Je me suis dit, si c'est dur pour moi de la poser, ça va être d'autant plus dur pour elle de pas avoir ce contact tout le reste de la journée, en fait. Donc voilà, pour elle, j'aurais bien fait tous les jours, mais bon, voilà. Mais j'ai gardé quand même quelques petites fois, enfin tous les deux, trois jours, en me disant, je sais pas, peut-être qu'elle est en train de perdre cette capacité. Donc au moins, si elle tète une fois de temps en temps, voilà, ça fait une petite figure de rappel.
C'était pour voilà, se rassurer en quelque sorte. Se dire qu'elle est, elle y arrive.
C'est ça, c'est bon. Voilà, c'est ça. Encore, c'est bon, elle accepte encore, c'est cool. Et au final, ce qui est ouf, mais sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est que le jour où elle est sortie, on ne savait pas qu'elle allait sortir. Encore une fois. Le matin même, au tribunal, on nous dit vous allez devoir attendre encore 2 semaines. Donc, grosse déprime. Et au final, on appelle la directrice. On lui dit voilà, ça se passe bien et tout, mais le juge, apparemment, n'a pas de place pour nous prendre en jugement. Nous, on a tout fini. Mais voilà, donc il nous dit encore 2 semaines et tout. Et donc, la directrice me dit mais vous n'êtes pas loin de l'orphelinat. On louait un appartement juste à côté. Oui, on n'est pas loin. Vous n'êtes pas dans un hôtel, vous êtes dans un vrai appart. Vous avez tout le confort d'un appart et tout, oui. Oui, bah, vous venez à 15h, vous la récupérez.
Ah, tu peux l'emmener là. Alors, cet enfant n'est pas vraiment adopté, voilà, mais on peut l'emmener.
Il va être midi, hein. Donc genre, dans 3h, vous la récupérez. Ok, elle me dit, en fait, je fais un papier okay, comme bon, quoi, bah, on fait une adaptation, etc. Mais en fait, eux, c'est-à-dire que la petite était encore sous leur responsabilité, mais en faisant, entre guillemets, une adaptation, sauf qu'elle n'est jamais retournée à l'orphelinat. Mais parce qu'en fait, c'était un orphelinat pour 15 bébés, et ils étaient 34. Donc voilà, notamment la nuit, deux nurses pour 34 bébés, et sur les 34, il devait y en avoir une dizaine qui avait plus de 18 mois, quoi. Tous les autres avaient moins de 18 mois. Donc voilà, nous, on connaît la réalité d'un bébé. Donc 18 à 2, c'est pas possible. Donc voilà, ça l'a arrangé. Et le jour où il est sorti, donc on arrive à l'orphelinat à 15h. La responsable me dit ah mais moi la directrice m'a pas appelé, j'en sais rien. Non, c'est pas possible, on fait pas ça. D'accord. Donc au final, on a bien la directrice qui appelle et qui explique la situation, etc. Elle me dit bah ok, ben voilà. C'est ça. Vous la reposez pas, vous partez avec. Ok. Et au final, donc on finit par partir. Et au moment où je monte dans la voiture, donc on l'a ramenée en voiture, elle se met à hurler. Ce qui est plutôt normal pour un bébé qui a jamais été en voiture avec le moteur, avec sortie de l'orphelinat, etc. Et donc forcément, je la mets au sein. Parce que au Maroc, c'est pas la norme, les sièges auto.
Ah oui, d'accord. Oui, là, il n'y a pas de tété cosy. Voilà,
hein, non, il n'y a pas de tété cosy. Et de toute façon, on n'avait même pas le cosy parce qu'on n'était pas au courant qu'on allait repartir avec elle. Donc moi, sur le coup, je dis à mon mari, moi, je suis très sécurité. J'ai ramené d'ailleurs mon cosy pour que ça soit un cosy sécure et tout, pas en acheter un là-bas. Et sur le coup, je dis à mon mari, non, mais retourne à l'appart et va chercher le cosy. Et il me regarde, il me dit, écoute, on est à 900 mètres de l'orphelinat. Ça va peut-être aller. En sachant que voilà, là-bas, y a pas... c'est assez rare. Et donc, je l'ai mis au sein. Et elle a tété. Il était donc 15h. Et elle a tété jusqu'à 20h.
Hop.
Voilà, la première tétée, en fait, elle ne voulait plus du tout lâcher. Je me suis dit, ok, ça va être chaud cette histoire. et du coup, bah après, moi, j'étais super contente. Et les grands frères étaient super fiers. Il y avait ma belle-mère qui était là. Qui était en pleine admiration et en mode « ne bouge pas, ne bouge pas, laisse-la accrocher, ne bouge pas ». Donc c'était chouette.
Attends, rappelle-moi ta belle-mère, est-ce que c'est elle qui faisait la soupe magique ?
C'est elle qui faisait la soupe magique, c'est elle qui nous a gardé les enfants pour qu'ils ne traînent pas trop dans les tribunaux, etc. Et le rapport à l'allaitement au Maroc est vraiment différent de la France, quoi. Donc voilà, enfin.
Ouais, donc c'était la fête pour tout le monde, en fait.
C'est
là,
ça, et puis, donc voilà, donc c'était vraiment génial.
Donc, t'as repris de cette soupe magique, cette fois-là, pour cette
allaitement-là.
Rappelle-nous, c'est une soupe que ta belle-mère fait, traditionnelle.
Une soupe traditionnelle qu'on fait aux femmes qui viennent d'accoucher, aux femmes allaitantes, etc. Et qui est plein de bonnes choses, que ce soit de l'orge, du fenugrec grec, du fenouil, enfin vraiment tout ce qu'on veut.
T'as la recette ?
J'ai la recette, elle est sur mon Insta d'ailleurs. Ouais.
C'est vrai ? Ah, bah, je la mettrai, je pourrais la mettre sur Milkshaker.
Et vraiment, ça marche hyper bien. et du coup, cette première soirée s'est très très bien passée, sauf que bien sûr, à 20h, 20h30, 21h, moi j'étais en coque, forcément. En sachant que la veille, je tirais uniquement 230 ml quand même par jour. Donc, ce qui était quand même pas assez pour couvrir les besoins d'un bébé. Donc, moi, j'avais fait quelques stocks. J'avais fait un peu de stock dans le congélateur de la location où on était. Et du coup, le soir même, comme elle avait l'habitude d'avoir un bib à 21h et de dormir, on lui a fait un bib à 21h. En se disant, voilà, on va y aller tranquille quand même. On va pas l'affamer tout de suite. Donc, voilà, papa lui a donné son premier bib de lait maternel. Et elle a fait une nuit complète. Donc, ça, c'était cool.
Elle est parfaite, cette enfant.
Totalement. Ça a changé depuis. Mais non, mais voilà, bah, parce qu'elle avait, elle avait encore le rythme de l'orphelinat au final. Et voilà, c'était une enfant parfaite parce que voilà, elle ne pleure pas, elle ne réclame pas. Et au final, tu te dis, un bébé de 3 mois qui réclame pas, voilà, ouais, c'est pas logique. C'est un truc qui va pas trop. Donc après, une fois qu'elle a compris qu'elle pouvait être dans les bras, qu'elle pouvait téter quand elle voulait, voilà.
Elle t'a pu lâcher.
Du coup, de toute façon, les 3-4 jours qui ont suivi, on a passé notre vie en sling. Sling, téter, on faisait que ça.
Oui, et puis toi, de toute façon, il fallait qu'elle stimule à fond, parce que si tu tirais 230 ml par jour, il fallait bien... Enfin voilà, en effet, ça ne couvre pas les besoins d'un bébé
voilà,
de cet âge-là.
Il fallait qu'elle stimule à fond, et il fallait aussi, elle, qu'elle reprenne l'habitude d'une tétée efficace, parce qu'elle acceptait de téter, et elle avait du lait, etc. Mais forcément, pas comme un bébé qui allaitait depuis toujours. Et, donc voilà. Mais moi, je me suis dit, tant qu'elle n'a pas envie de lâcher, eh ben, elle ne lâchera pas. C'est très bien. Et j'ai fait quelques compléments avec le dalle, avec mon lait donc, que j'avais stocké. Je faisais un complément le midi, un complément le soir. Mais en même temps, il n'y a pas un moment où elle pleurait de faim. Il n'y a pas un moment où elle levait sa tête du sein en chouinant parce qu'il n'y avait pas de lait ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, je la laisse faire, je la laisse gérer.
Faut dire que si elle était habituée à s'endormir de
c'est
faim...
Ça.
À 18h30, alors qu'elle mangeait à 21h, elle avait quand même l'habitude.
Voilà, et ce qui m'a fait beaucoup douter, c'est que je me suis dit, mais là, on n'est pas sur un enfant lambda, on n'est pas sur un enfant qui va pleurer quand il a faim, on est sur un enfant pour qui la faim, c'est la norme.
Et ouais, donc ça, c'est hyper déstabilisant quand on veut mettre en
parce
place...
Parce que dans l'allaitement, on dit beaucoup, fais confiance à ton bébé, voilà, un bébé se laisse pas mourir de faim, s'il dort, il dort, enfin, voilà, si t'as plus de lait, il te le fera comprendre. Et là, au final, il a fallu effacer tout ça, et en même temps ne pas être trop dans le calcul parce que c'était une situation complètement inédite, je peux pas me référer à à quoi que ce soit, donc voilà, on a fait un peu à notre sauce, c'est-à-dire qu'elle a gardé un bib le soir pendant 4 jours, donc un bib de mon lait pendant 4 jours le soir, et en fait au bout de 3 jours elle me virait les sondes du dalle pour le midi.
D'accord.
Je me suis dit, écoute, elle pleure pas, peut-être que ça lui convient. Et moi, je n'ai pas du tout essayé de tirer. Parce que vu qu'elle était au sein toute la journée, voilà, j'ai essayé de tirer deux fois et il n'y avait rien. Je me suis dit, ça va me déprimer plus qu'autre chose. Je vais me dire que je n'ai pas de lait et tout, alors que ce n'est pas vrai. Arrête tes bêtises. Donc, j'ai arrêté. J'en ai laissé faire comme ça. Et au bout de 4-5 jours, elle s'endormait sans son biberon. Et au final, au bout de 6 jours, elle était allaitée exclusivement, sans aucun complément.
Au bout de 6 jours à la sortie de l'orphelinat.
Et
c'est dingue.
Voilà. Alors après, au niveau du poids, je pense qu'elle a perdu un petit peu de poids. Et le problème, c'est qu'on peut pas se référer au poids de l'orphelinat parce qu'il est pesé en pyjama avec couche. Donc voilà. La pédiatre qu'on a vue là-bas m'a dit ne prenez pas ça en compte. Mais au vu des courbes, etc., je pense que voilà, elle a dû perdre un petit peu de poids. Mais je me suis, voilà, elle était active, elle mouillait ses couches, elle était en train de se marrer tout le temps. C'était pas un enfant qui était dans la douleur, c'était pas un enfant qui était déshydraté. Donc je me suis dit, laisse faire les choses. Voilà. Et au final,
t'as quand même
fait confiance. T'as on réussi. S'est fait confiance. Et quand on est rentré en France, donc le 10 juin, donc 2 mois plus tard.
Ouais, donc longtemps
oui,
après,
parce
vous êtes restés longtemps.
Le Maroc a fermé ses frontières. Voilà.
Ah oui, on est tombé dans la période où ça fermait.
Le Maroc a fermé ses frontières. Du coup, le consulat nous disait on ne peut pas faire de visa à votre enfant parce qu'il nous faut un billet de retour si vous voulez un visa. Et ce même consulat nous disait on ne peut pas vous mettre sur la liste des rapatriements puisque votre fille n'est pas française, elle n'a pas de visa.
Bah oui, c'est le rebondissement là.
On a eu encore plein d'autres rebondissements parce que mon mari, lui, est rentré avec les enfants. On devait rentrer tous ensemble. On a enfin eu le visa le 2 juin. On devait rentrer en bateau parce qu'on avait la voiture. Arrivé devant le bateau, donc après 3 heures de route, tout le monde chargé, les enfants très heureux de ramener leur petite sœur, le douanier nous dit il y a un problème en fait, le visa de la petite n'est pas à la bonne date. le bateau était le 22, le 22 mai, et arrivé en France le 24, et son visa commençait le 25. Voilà, on a tout fait pour négocier. J'ai dit, mais écoutez, s'il faut qu'on reste 6 heures à la douane du port pour attendre minuit et qu'on débarque sur en France réellement qu'à partir de minuit une le 25, c'est pas un problème, mais ils n'ont rien voulu savoir.
Donc attends, du coup là la famille voilà. se sépare en deux, il y en a qui rentrent en France en bateau et toi tu restes.
Voilà, la famille se sépare, en 20 minutes on a dû prendre la décision, j'ai récupéré les affaires que je pouvais dans la voiture parce qu'on avait fait les valises pour arriver jusqu'à la maison du coup. On n'avait pas fait une valise pour moi et la petite, une valise pour les autres. Les garçons, première séparation avec moi, donc gros drame. Mon grand surtout, qui était en stress total, et me disait, on ne va jamais pouvoir ramener notre petite sœur. Donc, il avait bien compris que le problème, c'était ses papiers à elle. Et il s'est dit, je ne pourrais jamais l'avoir chez moi. C'est super dur. Et là, l'allaitement m'a encore sauvé la vie. Parce que du coup, on a dû appeler la famille, alors quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui habitait sur cette ville, pour me loger pour la nuit, avant de reprendre le train le lendemain jusqu'à Casablanca, 3 heures de train. Et je me suis retrouvée avec ma fille et 4 couches.
Ok, c'est minimum. Voilà,
4 couches de pyjama et un moyen de portage, parce que j'en ai toujours un sur moi. Mais sur le coup, je me suis dit, moi qui suis en plus pas super à l'aise quand je ne connais pas les gens, si j'avais dû m'imposer dans une famille et en plus me dire ah voilà, est-ce que vous avez tel eau pour faire le bib, ah faut que j'aille à la pharmacie chercher ça, ah 3 heures du mat, bonjour, il y a quelqu'un pour m'allumer le gaz, ça aurait été super compliqué. Et au final, vu qu'elle était que au sein, ça s'est super bien passé. Alors, elle pas déstabilisée pour un sou, parce que du coup voilà, son repère c'était vraiment moi, c'était vraiment le sein, et ça lui a posé aucun problème. Donc, on a fini par rentrer le 10 juin. Et donc, jusqu'au 10 juin, pendant 2 mois, elle a été exclusivement. C'est-à-dire que je n'ai jamais sorti une boîte de lait. J'ai jamais... Enfin, on a acheté une boîte de lait, en fait. Parce que mon mari était un peu en stress. Voyant que, voilà, on l'a fait peser 2 fois chez le pédiatre, elle n'avait pas pris 1 gramme. Donc, voilà. Et au final, j'ai résisté. J'ai résisté, on a fini par partir en laissant la boîte pour quelqu'un qui en avait plus besoin que nous.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Et donc, quand on est rentré en France, elle avait fait 2 mois d'allaitement exclusif, en sachant qu'elle était en allaitement exclusif à partir de 6 jours après la sortie de l'orphelinat, et que je n'avais aucun stock, en fait, parce que j'avais passé mon stock que j'avais fait dans la location, donc pour les six premiers jours, et après, je n'avais plus rien d'avance. Donc, j'aurais même pas pu... Voilà, c'était soit ça, soit du lait artificiel. C'est pour ça aussi qu'on avait une boîte. On s'est dit, voilà, on ne va pas non plus forcer.
Bah bien sûr, quand même.
Un soir ou à la fin, on ne va pas lui dire, eh ben, ma chérie, tant pis. Donc, au final, on n'en a jamais eu besoin. Tu ronfles un peu, là.
Oui, vous entendez. Voilà,
elle a le nez un peu pris. Elle est en train de téter, d'ailleurs. Et du coup, elle joue avec. Et du coup, quand on est rentré, moi, j'avais mes 20 litres au congélateur. Donc, je me suis dit, voilà, là, je vais pouvoir booster un petit peu sa prise de poids, parce qu'elle n'avait toujours pas pris de poids. Après, voilà, il n'y a pas que l'allaitement qui est en cause. Il y a aussi le fait qu'elle soit passée d'un univers où elle était tout le temps posée au sol ou dans son lit. Enfin, même pas au sol, dans un coussin. Donc, elle ne pouvait même pas se retourner ni quoi que ce soit. Il y a un coussin de grossesse, là. À un environnement où elle passait de bras en bras, où elle a découvert les rires, les cris, le mouvement, le vent, le soleil. Enfin, donc forcément ça lui a mangé beaucoup d'énergie, et puis voilà, changer d'alimentation pour un bébé, c'est jamais anodin, donc c'était quand même un gros changement pour elle. Et du coup, on est rentré en France et j'ai commencé par lui donner, enfin on a tenté de donner un biberon, 2 biberons, mais déjà ça s'est passé beaucoup les tétés, donc je l'ai pas senti trop bien, et j'étais totalement mal à l'aise, en fait, limite, c'est mon mari qui lui donnait, moi j'étais presque en pleurs, en fait. Mais non, on va pas tout foirer maintenant, quand même. Enfin, ça fait 2 mois qu'elle est au sein, et non, c'est pas possible.
Ah, donc toi, ça t'angoissait.
Ouais, ça m'angoissait complètement. Voilà. Le dalle, toujours pas. Voilà. Et elle avait quand même 5 mois.
Oui, du coup, elle a 5
voilà,
mois.
Voilà, à ce moment-là, elle a 5 mois, et je me dis, est-ce que... moi, à la base, je voulais faire la DME avec elle, donc la diversification pour l'enfant. Est-ce que je mets en jeu mon allaitement pour qu'elle puisse avoir un complément de lait au biberon et que du coup elle commence la DME plus tard, ou est-ce que je, entre guillemets, mets en jeu la DME en commençant directement à la cuillère avec mon lait qui serait un peu épaissi, mais du coup, voilà, pas sûr que je puisse lui donner des morceaux tout de suite. Le choix, il a été vite fait, forcément. Et du coup, quand elle a eu 5 mois et demi, j'ai commencé à lui donner... donc, elle était en allaitement exclusif. Et pour le goûter, elle avait 150-200 ml de lait que j'ai épaissi avec, avec des céréales, en fait. Céréales bébé, sans sucre, d'accord, etc. Et du coup, ça s'est très bien passé et elle a commencé à reprendre du poids.
Ça fait quand même 20 litres de lait maternel à épaissir, voilà, au goûter. T'en as encore,
On en est que maintenant, donc à 6 mois et demi, elle a commencé à être diversifiée en DME. Ça lui a posé aucun problème.
Ouais.
Donc, c'est une très, très, très bonne mangeuse. Elle adore manger.
Tu lui as fait des flans, des
alors,
trucs comme
donc,
ça.
Le lait, je suis après vraiment restée sur le goûter avec les céréales. Parce que j'ai testé les flans et tout, mais dans mon organisation, déjà, ça n'allait pas.
D'accord.
Ça n'allait pas dans mon organisation.
Okay, c'est une très
bonne. Et elle
n'était
pas fan. On a essayé une ou deux fois, je ne sais pas si c'est la texture ou quoi. Mais, Et donc, du coup, elle a commencé à être diversifiée. Donc, repas du midi, repas du matin. Et au final, maintenant, elle va avoir 9 mois. Et on n'a toujours pas fini nos 20 litres.
Ouais, c'est ce que je te disais, il doit encore
voilà,
y avoir.
Alors, on est sur la fin, je pense qu'il va me rester. Ben voilà, elle va pouvoir aller jusqu'à ses 9 mois, jusqu'au 5 à peu près, quoi, octobre. Donc, elle, voilà, mm-hmm, elle a toujours ses petits goûters lactés. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant, j'arrive sur les derniers paquets, les derniers sachets de lait. Et en fait, j'avais mis des petites anecdotes dessus. Qui fait que là, par exemple, hier, je lui ai décongelé le petit paquet où c'était écrit « Annonce aux garçons ». Du jour où on leur a annoncé qu'ils allaient avoir une petite sœur, quoi. Donc c'est assez chouette.
Génial.
Et voilà. Et maintenant qu'elle voilà, elle a repris une courbe correcte, tout va bien. Je sais que quand j'arriverai à la fin de mon stock, elle passera sur des goûters autres, mais elle aura toujours pas besoin de compléments en lait. Et d'ailleurs, j'ai rangé le biberon pour le prochain il y a 2 jours. J'ai rangé ma cuisine, j'ai vu ce biberon qui trônait là sur cet égouttoir à biberon qui ne m'a jamais servi.
Ouais, ça y est, tu l'as
j'ai
rangé.
Voilà. J'ai dit ça ne sert plus à rien, je sais que ça ne me servira pas. Donc voilà, on est sur un allaitement classique.
Et alors, c'est comment allaiter exclusivement du coup au
c'est
sein
dingue. C'est complètement dingue. Déjà, c'est quelque chose qu'on a remarqué assez rapidement, c'est que. Les personnes qui connaissent un peu l'allaitement ne vont pas être surprises, mais les blessures cicatrisent beaucoup plus vite. La blessure de l'abandon, mm-hmm, la blessure de la vie en collectivité quand on est tout petit. Mon mari m'a fait la remarque au bout, je crois, de 10 jours, même pas 10 jours, où il l'a regardé dormir au sein, il m'a dit, mais en fait, c'est toute sa vie, quoi. Elle se souvient même plus du reste. C'est... Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est assez dingue. Et puis voilà, on voit vraiment que ça comble. C'est pas juste un besoin nutritionnel, quoi. C'est, ouais, c'est des bébés qui en ont encore plus besoin. Je pense que d'autres qui n'ont pas eu de blessures. Et du coup c'est dingue le rapport qu'il y a. Et puis en plus moi du coup dans mon protocole j'ai continué parce qu'en fait donc on prend de la dompéridone, qui est une molécule qui va faire monter la prolactine. Sauf que il y a un moment donné où on va l'arrêter quand même.
Oui, voilà. Un moment à un autre. Je rappelle que la dompéridone, c'est un antivomitif,
voilà,
à la base.
Voilà, donc c'est vraiment... Nous, on s'en sert pour son effet secondaire, mais le but n'est pas, ouais, pas de le garder indéfiniment. Et donc, on est rentré en juin. Et moi, j'ai commencé à diminuer 3 semaines, 1 mois après, le temps d'arriver, etc., on avait un bon rythme et du coup j'ai commencé à diminuer chaque semaine, enfin au début chaque semaine je diminuais, à chaque fois j'avais une baisse de lactation où du coup en plus on a eu des coups de chaud à la même période, donc voilà, parce que c'est des marathons tétés, impossible de prendre une douche. et du coup petit à petit ça s'est calmé et j'ai fini par arrêter complètement mi-août je crois, donc encore aujourd'hui, je ne réalise pas. Il y a des fois où je regarde ma fille, où je l'allaite comme n'importe qui.
Il n'y a plus rien, là. Il n'y a rien qui soutient derrière, il n'y a rien qui booste la lactation. Ça y est, ton corps, il a pris le relais en entier.
On n'est plus du tout sur une vue. Parce que j'ai eu ce genre de remarques, que ce soit pour mon premier, mon deuxième, même ma troisième. Voilà, c'est pas normal, c'est pas naturel. Oui, mais si tu passes par un protocole, c'est que tu ne devrais pas allaiter, c'est que c'est pas... Voilà. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment juste une aide pour lancer le truc, mais c'est elle qui fait le travail derrière, quoi.
Ouais, c'est elle qui fait le job.
Maintenant, on profite à fond sans se prendre la tête de prise de poids, de est-ce qu'elle a faim, est-ce qu'elle n'a pas faim, est-ce que... Donc voilà, c'est juste simple et c'est dingue à quel point c'est simple. Parce qu'en plus, on oublie tout. Enfin, c'est un protocole qui n'est pas facile, honnêtement. Sur les nerfs, il y a des mots comme la prise de poids, les brûlures d'estomac, les sautes d'humeur, on passe par tout ça.
Ouais, on en parlait dans le premier épisode, c'est les symptômes de grossesse, certains aléas autour de la grossesse, mais sans la grossesse.
Mais le truc, c'est qu'en plus, tu te dis, je ne sais même pas s'il y aura un résultat au bout.
Ouais, sans savoir où est-ce que tu vas, quel enfant tu rencontres, est-ce que ça va marcher.
Sur les premiers mois, tu ne sais pas s'il y aura un résultat. Après, bon, avec du stock au congèle, tu te dis que c'est déjà ça. Mais tu sais pas si tu auras cette récompense, entre guillemets, de pouvoir vivre ça. Et puis au final, ça se fait tellement simplement que tu oublies, quoi, en fait. Voilà, je suis prête à repartir pour 18 mois de protocole pour le quatrième. Ouais. Mais alors, sans aucun problème, quoi.
Il va y en avoir un quatrième.
Alors, normalement, il va y en avoir un quatrième. En sachant que, on a franchi cette étape de la mise au sein, on a franchi cette étape de ne plus avoir aucun traitement et d'être sur un allaitement normal, j'ai envie de dire, classique.
Ouais.
Et la prochaine étape complètement dingue serait le co-allaitement d'ici un an et demi, quoi. Un an et demi.
Ouais, c'est de continuer cet allaitement-là, de ne pas avoir à refaire ce protocole. Ouais. La lactation est en route on attend le...
C'est ça. Alors, on a hésité à partir là cet été. Et non. Non, parce qu'on est des humains, en fait.
Oui, j'allais dire, vous êtes quand même d'une motivation de dingue.
Voilà, on est des humains. On va déjà survivre à nos 3 enfants avant de se lancer. Je pense que chaque enfant a le droit d'avoir son temps à lui. J'ai médité, etc., on s'en sort et on aime tout autant nos enfants, ça c'est pas la question, mais je pense que c'est des enfants qui ont tellement été dans le collectif que lui accorder 2 ans et demi au lieu d'un an et demi, c'est pas plus mal, quoi, voilà, qu'elle reste le bébé de la maison et que chacun ait son temps, puis pour l'autre bébé aussi, de pas avoir à partager et de pouvoir aussi être à 100% le centre de l'attention, donc voilà. Donc on espère que ça dure encore quelques années.
Ils en pensent quoi, les deux grands ?
Alors les deux grands, mon grand, il a 8 ans et mon moyen, du coup, a 5 ans. En sachant que, en fait, mon grand, pour lui, il m'a vu faire le deuxième protocole aussi, donc il avait 3 ans à cette époque-là. Et pour lui, c'est tout à fait normal. C'est la base, je ne comprends pas.
Okay.
Voilà, vous en faites tout un sketch, tu veux un bébé, tu vas à l'orphelinat déjà, pour lui c'est sa norme aussi.
Oui.
Et t'as un bébé, tu l'allaites, bien sûr, que tu l'aies porté, pas porté. Voilà. Donc lui, puis en plus il est un petit peu à l'âge, il rentre je crois déjà dans la préadolescence, donc il s'en fiche un petit peu. Il est très très heureux de voir sa sœur, quand il la voit téter, il dit mais elle est tellement mignonne quand elle tète. Pour lui, c'est normal. Et mon second, lui, qui a été mon copilote pendant ces mois de préparation, parce que il voue une passion pour les tirer, un truc pour lui. C'est un fan de Baby Boom à 5 ans, enfin voilà. Ah ouais, pour lui, tout ça, c'est magique. Et c'est lui qui était super fier, qui me disait « Regarde, maman, il regardait dans le frigo, t'as tiré ça aujourd'hui ?» Oui, c'est trop bien, maman, c'est trop bien.
Ah ouais, c'était ton coach.
Ah ouais, c'était mon coach et il était à fond dedans. Il a voulu goûter une fois aussi, mais ça s'est arrêté une fois. Il a dit, je crois que c'est vraiment pour les bébés. Hein. et du coup, lui était très, très fier. Au final, maintenant, c'est la norme aussi, quoi. C'est normal. Et ça, je crois que c'est encore plus dingue c'est que pour eux, ça soit normal, quoi. Dire, ouais. Ils parlent avec leur copain ou avec la maîtresse. Ah bah oui, parce que ma petite sœur, elle a tété. Ah bon ? Parce que les gens ne pensent pas, enfin quand ils savent que c'est une adoption. Donc voilà, pour eux, c'est tout à fait normal. Et
t'as semé des graines là, mais tout départ, quoi.
Voilà, on a la chance d'avoir cette double culture où au Maroc, c'est normal. Au Maroc, un allaitement complet, entre guillemets, minimum, c'est 2 ans. Donc, ouais. Forcément. et allaiter dehors, c'est normal aussi. Je veux dire, quel que soit le portage, c'est pareil. Les grands-mères qui portent, les tatas qui portent. Enfin, donc, pour eux, tout ça, c'est normal. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un bébé. Un bébé, sa tête, un bébé, c'est porté, un bébé, c'est dans les bras tout le temps. Et il n'y a rien de
bizarre.
Il n'y a rien de bizarre. Et si tant est qu'un jour, ils me disent « Ouais, mais quand même, là, on ne peut pas jouer tranquille », je leur rappelle qu'eux ont vécu la même chose, quoi, même s'ils n'ont pas forcément tété. Ils sont très, très fiers aussi, tous les trois, d'être frères et sœurs de lait.
Ouais, on en avait parlé la première fois. Ouais.
C'est vrai qu'ils en sont assez fiers et c'est super chouette. Et voilà, je trouve qu'on a là, on est en train d'écrire une belle page qui n'avait pas forcément commencé sous les meilleurs auspices.
Ouais, c'était compliqué. Ça, ouais.
Ouais, ça a été mon protocole le plus compliqué, le plus éprouvant et le plus long aussi.
Ouais.
Et j'étais c'est vrai que j'étais déprimée avant de savoir comment ça allait se passer parce que je me suis dit j'ai fait tout ça, au final je tire 200-230. Donc, ça ne sera jamais suffisant. Elle tête, c'est bien, mais est-ce que ça va continuer ? Parce que je vais être obligée de la complémenter. Donc, voilà. Et voilà, comme quoi, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à bébé. Et même quand on est en tire-allaitement, ne pas forcément se fier à ce qu'on tire. Parce que je suis persuadée que si elle n'avait bu que 230 par jour, elle aurait perdu énormément de poids. Elle n'aurait pas été, épanouie comme elle était à dormir... une étoile de mer totalement détendue. Donc c'est que je produisais bien plus que ce que je tirais, quoi.
Ok, du coup, tu parlais de l'allaitement au Maroc qui est assez différent de l'allaitement en France, en tout cas de la vision qu'on a de l'allaitement. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Comment tu vis ton allaitement en France, le regard des autres ? Alors même, ne parlons pas même plus de la lactation induite, tu vois, et de ce contexte particulier autour de ton allaitement à toi. Mais pour toi, c'est quoi l'allaitement en France aujourd'hui ? Est-ce que c'est facile, pas facile ? Comment tu le ressens ?
Alors, moi, je trouve ça facile dans le sens où j'ai une facilité qui est que je suis à la maison. Donc, au final, je suis pas confrontée à devoir allaiter dans des lieux qui pourraient déranger ou quoi que ce soit. Je veux dire, j'ai allaité à la ludothèque, j'ai allaité au resto, j'ai jamais eu aucun problème. Après, en sachant que je pense que allaiter en extérieur ne pose de problème à personne du moment qu'on est entre guillemets caché. Et moi, étant voilée, de toute façon. Personne n'aperçoit un morceau de peau.
T'as la sensation que ton voile finalement te protège un peu du visuel et.
Voilà, au final, moi, il y a personne qui peut rien voir. Donc, si quelqu'un se permet de me faire une remarque, il aurait rien à dire en fait. donc personne ne se permet de faire aucune remarque.
Ouais, peut-être qu'il voit même pas que t'as l'air.
Ah mais oui. Moi, quand j'ai la dernière fois à la ludothèque, j'ai la personne qui dit oh, elle avait besoin d'un gros câlin. Je dis, non, en fait, elle est en train de péter là. Elle était en sling, enfin normal, hein, je l'avais pas enfouie. donc je dis non, elle est en train de péter. Ah, vous la nourrissez ? Oui, je la nourris aussi de temps en temps. Oui, tout à fait. mais moi, j'ai eu aucun problème. J'ai eu aucun souci. Pour le moment, au niveau pédiatre et tout, je suis tombée aussi sur des bonnes personnes. Après, elle a que 9 mois. Ouais. On verra un peu plus tard comment ça se passe. Mais c'est vrai que le Maroc, c'est un autre monde parce que ici, on fait tout un scandale d'une femme qui va allaiter son enfant en parlant de pudeur, d'exhibition, etc. Alors que pas du tout, clairement. Et tu vas dans un pays... qui est quand même un royaume musulman, où la pudeur a un autre sens, en fait, parce que la plupart des femmes sont voilées, ou si elles ne sont pas voilées, au moins,
C'est très rare de voir ne serait-ce qu'une femme en manche courte, par exemple, ou en jupe, ou quoi que ce soit. Et pour autant, c'est tout à fait normal, mais alors tout à fait normal, de voir une femme sortir son sein, allaiter son bébé. Je veux dire, j'ai fait le choix personnel d'être discrète, mais au Maroc, il y a autant de femmes qui font le choix d'être discrètes que de femmes qui disent « mais en fait, ça ne vous plaît pas, vous tournez la tête ». Et c'est tout à fait normal. Enfin, moi, je l'ai vu, que ce soit dans les administrations, dans la rue, enfin, ça ne choque personne. Et c'est en fait, c'est tout à fait une autre mentalité. Parce que, bien sûr, il y a généralement des hommes, hein, on ne va pas se mentir, des hommes qui sont mal à l'aise, mais ils ne s'autoriseraient jamais à dire quoi que ce soit ou avoir un regard insistant. Ils savent que si eux-mêmes sont mal à l'aise, eh ben, ils détournent le regard et c'est ce qu'ils ont à faire de toute façon. Ouais. Et point barre. Et il y a aussi, je trouve, une grosse sororité, en fait, qui est que, voilà, autant une femme qui est à l'aise va allaiter dans un couloir du tribunal et si quelqu'un se permet de la regarder de travers, c'est elle qui va regarder de travers et la personne qui va se sentir fautif parce qu'il sait très bien que... je nourris mon enfant, ça te plaît pas, ok, mais va-t'en, en fait.
Ouais, c'est complètement banalisé.
Et autant, j'ai vu par exemple une jeune mère, comme je crois 95-98% des jeunes mères, que ce soit en France ou ailleurs, les premiers temps, quand tu allaites à l'extérieur, t'es pas forcément à l'aise, t'as pas forcément envie qu'on te regarde, voilà. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle s'est assise. Il n'y avait pas trop d'autres endroits, donc elle était au milieu du tribunal, parce qu'on a fait beaucoup de tribunaux. Oui. et j'ai vu trois anciennes qui étaient en train de discuter, qui se sont déplacées et qui ont continué à discuter, mais en se mettant devant elle, en fait. Donc, sans échanger un mot, sans...
Non, juste pour qu'elle soit confort.
Juste pour qu'elle soit confort. Et je pense que ça demande d'efforts. Ça ne demande pas d'efforts surhumains de ces petites attentions et être autant bienveillante que ça soit envers une femme qui est tout à fait à l'aise et qui allait naturellement de façon ouverte et sans aucun souci que d'être bienveillant aussi avec une mère qui serait un peu moins à l'aise et sans pour autant lui balancer un « Oh non, mais tu sais, c'est ton droit, fais ce que tu veux. » Oui, mais...
Ouais, mais peut-être qu'elle n'a pas envie, juste.
Voilà, peut-être qu'il me faut du temps, peut-être que... Et donc, c'est vrai que c'est une autre vision des choses. Et c'est pareil sur la durée de l'allaitement. Allaiter un bébé jusqu'à 2 ans, c'est la norme.
Et alors, justement, j'ai une question là-dessus, parce que dans mon souvenir, jusqu'à 2 ans, c'est complètement la norme. Mais j'ai ouï dire que passé 2 ans, par contre, ça commence à être beaucoup moins bien vu, comme s'il y avait un cap à 2 ans. Alors, je ne sais pas si c'est au Maroc ou si c'est dans le monde musulman en général, je ne sais pas.
En fait, dans l'islam, en fait, il y a entre guillemets, un quiproquo. Enfin, ce n'est pas un quiproquo, d'accord, mais en fait, dans l'islam, on dit que l'allaitement, au même titre que le prénom, c'est un des premiers droits qu'a l'enfant sur sa mère. Déjà, c'est pas une option. C'est un droit que tu dois à ton enfant.
Non, que la mère doit à l'enfant.
Voilà, que la mère doit à l'enfant. Donc voilà. Et un allaitement complet dure 20 mois. Sur les textes, voilà, c'est écrit dans le sens, un allaitement complet dure... Enfin, c'est 21 mois parce que c'est en calendrier grégorien. Et j'ai rien. Mais grosso modo, un allaitement complet, c'est 2 ans. Sauf que certains l'ont compris dans le sens, après 2 ans, c'est fini. Alors que ça veut simplement dire que c'est minimum 2 ans. À 2 ans, c'est complet et c'est toléré jusqu'à l'âge de raison. Donc, l'âge de raison qui est 7 ans. Et du coup, on retombe totalement dans les chiffres de l'allaitement du sevrage naturel qui est entre 2 et 7.
D'accord, ok. Oui, donc après, c'est une interprétation que font les gens d'un texte, c'est ça ?
Disons quand ton enfant a 2 ans, tu peux faire le choix d'arrêter et tu lui auras donné son dû.
Oui, en revanche, avant ça, c'est un peu pas une option, quoi, finalement.
Voilà. Après, maintenant, c'est vraiment le côté religieux. Mais après, il y a la culture et tout. Et de plus en plus, il y a l'occidentalisation qui dit que ton bébé sera plus gros s'il boit des biberons, c'est mieux. Et voilà, mais après voilà, c'est pas rigide non plus. Et bien sûr que si ta santé est mise en péril, tu ne dois pas continuer l'allaitement, etc. Mais c'est voilà pour la ligne directrice, et c'est pour ça qu'un bébé de 2 ans, 3 ans qui est allaité, ça pose pas de problème. Après, il y a beaucoup de croyances dans le sens, bah, comme en France, hein, mais dans le sens, voilà, si tu veux tomber enceinte, forcément, il faut que tu arrêtes d'allaiter. Alors, quelque chose là-bas qui est impossible, c'est que tu es enceinte, tu arrêtes d'allaiter.
D'accord.
Parce que, c'est, enfin, en France aussi, hein, y en a qui le disent, que le lait serait toxique pour l'enfant ou que tu risques de prendre trop d'énergie et du coup, l'enfant que tu portes va être pénalisé. Voilà.
Oui, on n'est pas non plus exempte d'idées reçues au Maroc, dans le monde musulman.
Et tout. Non, du tout.
Normal, après tout.
Hein. Non, les médecins, on n'en parle plus, on n'en parle même pas. Moi, j'ai l'exemple de ma belle-sœur donc, qui a eu des jumeaux, ils ont maintenant 18 mois, et qui s'est vue gratifiée lors de sa première écho, où ils ont dit que c'était des jumeaux, bah vous pouvez aller acheter une boîte de lait tout de suite parce qu'ils sont deux, vous ne pourrez pas les allaiter.
Ouais, voilà, donc les idées reçues, c'est partout. En revanche, voilà, ce qui est écrit dans les textes de l'islam fait qu'il y a une banalisation peut-être plus facile de l'allaitement maternel dans ce monde-là.
Ouais, ça reste voilà, ce qui est meilleur pour l'enfant, etc. Après, sans décrédibiliser les personnes qui ne pourraient pas allaiter ou quoi que ce soit, c'est pas, on te dit pas, si tu n'allaites pas, tu n'es pas un bon parent. On te dit, voilà, ce qui est bon pour l'enfant, c'est ça. Et au final, c'est l'OMS, quoi.
ouais, c'est ça. Non, accrochons-nous uniquement au côté positif.
Donc voilà, mais c'est vrai qu'au Maroc, c'est beaucoup plus simple. Et que ça soit même au sein de la famille, voilà, on sait que t'as un bébé, on sait que tu vas allaiter, on va te proposer, est-ce que tu veux que je fasse sortir les hommes, ou voilà, on va pas toi te dire, bah tiens, regarde, il y a une pièce là-bas, tu vois le placard, si tu veux l'allaiter, tu vas là-bas. Donc c'est un autre état d'esprit, quoi. C'est pareil, donner le sein à quelqu'un d'autre, enfin prendre un bébé qui n'est pas son bébé. Bon, là, d'ailleurs, j'avais allaité la fille de ma belle-sœur. Ouais. Quand on est parti en septembre parce que j'étais en train de perdre entre guillemets ma lactation et que voilà, donc comme elle avait repris le boulot, donc la petite elle avait 7 mois je crois, un truc comme ça,
ouais.
Et sa fille n'arrivait pas à s'endormir sans le sein, donc
bah parfait, je suis là,
c'est tout à fait normal que ma belle-mère me dise écoute, t'arrives pas à dormir, mets-le au sein. Je vais peut-être demander à sa mère peut-être d'abord, bah pourquoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai envoyé un message à ma belle-sœur parce que moi, personnellement, j'arrivais pas à donner le sein à sa fille sans lui avoir posé la question, quoi. Et elle a eu la même réponse que sa mère. En fait, elle me dit, bah oui, enfin, limite, pourquoi tu me demandes en fait ?
Pourquoi tu me déranges dans ma journée ?
Ok. Et du coup, et c'était marrant parce que quand on lui a présenté Maria, du coup là, au mois d'avril. C'est un des premiers trucs qu'elle a fait. En fait, ma belle-sœur était en fin d'allaitement. Ses enfants avaient 14 mois. Elle allaitait toujours, mais en fait, elle a découvert qu'elle était enceinte. Donc, dans son esprit, okay. C'était trop, trop imprégné. Elle avait trop peur de mal faire les choses. Donc, elle a décidé d'arrêter d'allaiter pour sa grossesse. Et du coup, quand elle a vu Maria, je crois que 2 heures après, je me suis retournée et elle l'avait au sein, en fait.
Sans te demander.
Alors, j'avoue que sur le coup, j'étais pas super à l'aise quand même. Et elle me dit, j'avais trop envie d'aller. Ça me dit, ça fait trop longtemps que j'ai pas allaité un bébé qui a pas de dents.
Toujours cette histoire de dents qui revient. Alors que là, elle commence à avoir des dents, ta chouchoute, ou pas ?
Là, elle en a 6. Ouais.
Bon, ça se passe bien, non ?
Qu'un problème, elle m'a mordu 2 fois quand elle a eu ses 2 premières, histoire de voir ce que ça faisait.
Bonheur.
Voilà. Mais depuis, non, aucun problème. Mais c'est vrai, ouais. c'est vrai que c'est pas la même sensation qu'un nouveau-né. Voilà, c'est différent. Et ça m'a fait rire parce que...
C'est pour pas qu'on fasse peur aux mamans qui nous écoutent, les bébés avec des dents ne mordent pas normalement.
Voilà, elle en a 6 et vraiment, j'ai eu aucune morsure. J'ai eu, voilà, 2 mini-morsures encore, j'ai même pas eu de traces ni quoi que ce soit. C'est juste, elle a serré les dents et elle a découvert qu'elle pouvait mâchouiller avec ses nouvelles petites choses. Mais non, plus jamais m'a mordu. Donc. Mais je veux dire, c'était drôle parce que du coup, voilà, je me suis retrouvée avec ma belle-sœur qui avait ma fille au sein. Toute la famille autour, hein, les oncles, les tantes... le beau-père, son mari à elle. Et il n'y a personne qui a cligné des yeux, quoi. Il n'y a personne qui s'est dit, mais c'est étrange. Mais... Enfin, non, c'est un nouveau membre de la famille. Elle est dans la famille. Moi aussi, j'allaite. Tu fais un truc. Enfin, voilà, quoi.
C'est super.
Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans ce genre de climat. On ne se sent pas mis à l'écart. On ne se sent pas comme on pourrait l'être. Enfin, moi, j'ai vu que ici, même en famille... Les gens ont tendance à détourner le regard, genre je suis mal à l'aise, et en même temps, moi je suis pas trop mal à l'aise, mais je me dis que peut-être ça va te mettre mal à l'aise.
Ouais, ouais, ça surenchérit dans le malaise.
C'est ça, et au final, tu dis bon, ok, la prochaine fois j'irai dans ma chambre, même si je suis chez moi.
Ouais, donc c'est différent. Non, bah là, l'histoire continue maintenant.
L'histoire continue, j'espère que ça se terminera pas si tôt, mais je pense pas. Je pense pas, j'ai pas l'intention de la faire garder, j'ai pas l'intention d'arrêter pour quelque raison que ça soit, et je pense qu'elle a pas l'intention d'arrêter non plus.
Bah c'est bien, c'est parfait, vous êtes raccord quoi.
C'est ça. Bon, après on verra, hein. On peut avoir des surprises, mais c'est vrai que pour le moment on passe encore pas mal d'heures collées jour et nuit.
Ouais, donc pour l'instant on est voilà sur un allaitement au sein qui roule.
C'est ça, qui roule, qui on l'espère peut-être va débouler sur un co-allaitement. Ça serait juste dingue. Ça serait complètement dingue.
C'est dans un an, du coup, tu vois. Dans un an, on en reparle, quoi.
C'est ça. Mais du coup, moi, je me dis, après cette expérience, ces trois expériences, et notamment cette dernière expérience, c'était déjà un peu mon créneau de dire rien n'est impossible dans l'allaitement. Rien. Mais alors là...
Là, t'es remonté comme un coucou, là.
Ah, mais c'est ça, en sachant que mon plus grand fils me dit « Maman, ça serait trop bien si c'était des jumeaux ou des triplés. »
Hop, hop, hop. Passer de 3 à 5.
Pourquoi pas. Mais j'avoue que si j'arrive à avoir ce moment de co-allaitement, ça serait dingue.
C'est ça, le next step.
Ouais. Là, on arrive sur du level quand même.
Ouais.
Ok, bah écoute, j'ai hâte que tu me racontes, hein. Je crois que je serai encore là dans un an pour milkshaker et savoir comment se passe l'expérience d'après. Je te souhaite que ce soit moins difficile le protocole, enfin tu vois, sans parler de protocole, parce que cette fois-ci je te souhaite qu'il n'y en ait pas si c'est ton choix et que tu arrives à continuer cet allaitement-là, mais que les démarches se simplifient, parce que voilà, on a cru comprendre que ça avait été une belle galère pour avoir cette louloute-là dans les bras. En tout cas, elle est magnifique. Moi, j'ai eu la chance de la voir en vidéo et vous n'aurez malheureusement pas cette chance-là, mais elle est magnifique. C'est incroyable d'ailleurs de l'avoir devant les yeux en enregistrant ça, parce qu'il y a un an, on ne savait même pas qui elle ou il serait.
Et toi, tu ne savais pas ce qui allait arriver non plus ? Ouais ?
Bah ouais. Bah, elle n'était même pas là encore. Hein. Elle n'était même pas encore arrivée pour savoir.
Le podcast est sorti en janvier. Elle est née le 5.
Et ben on va regarder la date, mais il est probable qu'elle soit née quasiment en même temps que le podcast est sorti.
Et d'ailleurs ça j'en ai pas parlé parce que voilà ça me revient maintenant. Donc j'avais arrêté mon protocole là entre septembre et etc. J'avais arrêté et j'ai décidé de reprendre le tirage. Je devais attendre un lundi. Enfin je m'étais dit j'attends lundi que les enfants après les vacances. Que les enfants reprennent l'école, etc. Et au final, j'ai repris, hein, je crois que c'était un jeudi. Et j'ai repris le 5 janvier.
T'as repris le jour où elle est née.
Ouais. Et je ne savais pas du tout. Je ne savais pas encore qu'on allait être apparentés ni quoi que ce soit. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai fait.
Elle s'est transformée en dragon.
Et en fait, c'est un truc que j'ai fait avec mes trois enfants. Mais je faisais rien de dingue pour les deux premiers. Quand j'ai su leur date de naissance, j'ai regardé ce que je faisais ce jour-là. Et voilà, maintenant, voilà, de par les photos, Insta et tout, on peut facilement retrouver. Et je me suis rendu compte que donc, c'est le jour où j'ai décidé de recommencer à tirer. Je me suis dit, allez, ne baisse pas les bras. Et pourquoi aujourd'hui, pas demain, alors que j'étais censée attendre lundi, je ne sais pas. Et voilà, donc tout ça lui était destiné à elle, quoi.
Waouh. Bon, bah écoute, on va se quitter là-dessus, je crois que là, c'est le mot de la fin. Ok, bon, bah il me reste plus qu'à vous souhaiter belle vie à tous les 5 pour l'instant, et bientôt 6 peut-être, plein de tétés, plein de tout ce qu'on veut, bien lacter et tout ça, plein de continuer de normaliser l'allaitement maternel. Je te souhaite que le next step soit, atteint. Et surtout, je nous souhaite de reparler dans un an de tout ça et qu'il y ait encore autre chose qui se soit passé.
On parlera peut-être co-allaitement, on parlera peut-être sevrage de cette histoire si particulière. Je ne sais pas du tout. On va faire ce qu'on fait depuis le début. On va laisser couler, on va se faire confiance et on va voir où on...
Je crois que tu fais ça pas mal du tout. Merci beaucoup encore, Bérangère, de partager avec nous ton histoire, tes histoires. C'est un plaisir pour la deuxième fois. Je ressors de cette interview exactement dans le même état que la première fois. J'ai les yeux à moitié mouillés et j'ai la chair de poule. Je pense que ce sera partagé par les auditeurs et les auditrices. Donc, merci beaucoup, beaucoup de partager ton histoire. Elle est magnifique. Et plein de bonheur à vous tous.
Merci beaucoup. Merci de porter la voix de l'allaitement, de tous les allaitements et de contribuer un petit peu à ce que les choses bougent, quoi.
Merci. Je continue. Je lâche rien. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Salut Bérangère. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.